dit à un moment donné à ceux qui l'entouraient, à son équipe, il avait une équipe, il leur a dit, vous serez mes... Aussi, c'est vrai. C'est vrai, il a dit, vous serez mes témoins. Mais il a aussi dit, vous serez mes disciples. Vous serez mes disciples. On étudiera ce verset à un moment donné, mais partons de là, vous serez mes disciples. Qu'est-ce qu'un disciple, finalement ? Qu'est-ce qu'un disciple ? La définition, c'est une personne qui adhère à une doctrine, à la doctrine d'un maître, qui en reçoit l'enseignement. Et le disciple se définit, tant qu'il est disciple, par son besoin et son désir d'apprendre. Il est conscient de la nécessité pour lui d'apprendre de son maître, d'être à son école, d'avancer, de progresser. Il a le désir d'apprendre. Et le jour où il n'a plus rien à apprendre de son maître, finalement, il s'en affranchit et devient quelque part maître à son tour. Vous savez, dans le monde professionnel, au début, dans l'entreprise, vous êtes stagiaire. Puis à un moment donné, quand les études sont finies, que vous avez le diplôme, c'est fini. Vous n'êtes plus stagiaire. Ça y est, vous avez changé de statut. Et on peut penser, parenthèse à tort, que nous n'avons plus à apprendre dans les domaines où nous pensons exceller, qu'ils soient professionnels ou autres. Dans le domaine, par exemple, des arts martiaux, vous êtes disciple d'un maître, et puis à un moment donné, si vous poursuivez dans cette voie-là, bah vous devenez vous-même maître, et vous n'avez quelque part plus rien à apprendre, sinon que de communiquer aux autres. Dans la vie, on apprend à marcher. Alors, l'enfant, le bébé qui apprend à marcher, il a absolument besoin de son papa ou de sa maman pour apprendre à marcher. Et puis le jour où il apprend à marcher, bah, il a fini d'apprendre, il marche simplement. Il marche pour son plaisir. Au départ, c'est difficile, c'est pénible. Quand on dit au petit, il faut aller marcher, c'est difficile, parce qu'il manque de force, parce qu'il tombe et autres. Mais à partir du moment où il a appris à marcher, bah, il se débrouille tout seul. Au début, c'est pareil pour le vélo. Quand vous commencez le vélo, c'est difficile. Voilà. Et l'enfant a besoin de son papa ou de sa maman, ou de son grand frère ou de sa grande sœur, pour apprendre à marcher. Mais à partir du moment où il sait faire du vélo... Bah, il prendra le vélo, il aura tendance à y aller tout seul, parce qu'il a appris. Il n'est plus dans un processus d'apprentissage, du coup il pratique le vélo, comme on peut pratiquer la marche. Qu'en est-il du disciple de Christ, finalement ? Est-ce que dans la vie chrétienne, de la même manière, au départ comme dans tout, quand on commence, il faut apprendre, hein ? Est-ce que quand on rentre dans la vie chrétienne et qu'on a avancé, est-ce qu'à un moment donné, on n'a plus besoin d'apprendre ? Finalement, est-ce qu'on quitte le statut de disciple ? Jésus a dit, apprenez, Matthieu 11, 28, apprenez de moi. Est-ce que cette parole, elle est juste pour quand on vient au Seigneur ? Effectivement, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, il a dit, apprenez de moi. Est-ce que c'est juste quand on vient au Seigneur ? Certes, c'est quand on vient au Seigneur. Mais est-ce qu'à la différence de la vie séculaire, dans la vie chrétienne, on n'a pas toujours besoin d'apprendre ? On n'a pas toujours besoin de venir à lui et toujours besoin d'apprendre du Seigneur ? Peut-on arriver à un stade de notre vie où, effectivement, nous n'avons plus besoin d'apprendre de notre maître, de dépendre de lui ? Est-ce qu'on peut avoir fini notre apprentissage, notre processus d'apprentissage auprès du Seigneur, laisser notre toque de disciple pour prendre celle de maître. La réponse est non. Toute notre vie, nous sommes appelés en tous les cas à devenir disciples et nous sommes appelés à le rester. Toute notre vie. La condition de disciple pour le croyant n'est pas une étape à franchir mais un but à atteindre, à maintenir et à poursuivre toute sa vie. Des contre-témoignages, il y en a finalement. Et il y en a dans la Bible, on le voit dans l'église de Laodicée. Apocalypse 3, 17, concernant cette église, Jésus dira « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » Et parce que tu ne sais pas, j'ai marqué entre parenthèses, ou que tu ne sais plus, que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est terrible, cette Église. Et l'Église, ce n'est pas une dénomination, c'est chacun individuellement qui formons l'Église. Et le Seigneur peut nous parler de cette manière-là. À un moment donné, on peut dire, eh bien voilà, comme on peut penser avoir réussi dans la vie, dans le domaine familial, dans le domaine social, professionnel, on dit, ça y est, je suis arrivé. Je n'ai plus rien à apprendre. Mais dans la vie chrétienne, on peut aussi arriver à ce stade, à cette pensée-là, de dire finalement, voilà, maintenant, là où j'en suis, je n'ai plus besoin d'apprendre, je suis riche, regarde par rapport à un tel ou à une telle ou par rapport aux autres. Et qu'est-ce que va dire Jésus ? Parce que tu ne sais pas. En fait, penser qu'on est riche, en crise, dans le sens qu'on est arrivé finalement et qu'on n'a plus rien à apprendre des autres et de Dieu, on n'a plus à évoluer, on n'a plus à progresser, c'est un aveuglement. C'est un aveuglement. Alors ça, quand on est jeune dans la foi, et c'est d'autant plus triste quand on est jeune dans la foi, d'avoir cette attitude-là, mais c'est un travers dans lequel on peut tomber quand on commence à avoir plusieurs années dans le Seigneur. Et là, on ne sait pas, ou on ne sait plus. Et Jésus dit, tu ne sais pas que tu es malheureux. Ce qui veut dire qu'on peut être heureux, mais malheureux. Je m'explique. On peut être heureux, mais mal. On peut être heureux à nos yeux, on peut être heureux selon la pensée du monde, mais on peut être malheureux selon Dieu. Parenthèse fermée. Autre contre-témoignage, c'est l'église de Corinthe. Paul va commencer par un compliment à cette église. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 4 à 7, il va louer Dieu, il va dire « Je te rends grâce, je rends grâce à mon Dieu et je lui rends de continuelles actions de grâce pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole, la connaissance, le témoignage de Christ, ayant été solidement établis parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. » C'est extraordinaire. Le problème de cette église, c'est qu'elle a arrêté d'avoir soif. Dieu l'a bénie, et il l'a bénie en proportion de sa soif, parce qu'en fait c'est ça. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Dans la vie de l'esprit, c'est ça. Dans le baptême du Saint-Esprit, dans la recherche de Dieu, de la vie de l'esprit. Mais dans tous les domaines, tant qu'on a soif, Dieu répond à notre soif. Tant que la veuve présente les vases, dans l'ancienne alliance, Dieu remplit. À partir du moment où il n'y a plus de vases, il n'y a plus d'huile, et dans notre vie, c'est la même chose. À partir du moment où nous n'avons plus soif de Dieu, plus soif d'apprendre, de connaître Dieu, de progresser dans tous les domaines de notre vie chrétienne et dans notre vie tout court, alors nous ne progresserons plus. Parce que Dieu fait en propension de notre soif et non pas de notre suffisance. Le problème de cette église, c'est qu'elle n'a plus, elle ne ressent plus son besoin d'apprendre du Seigneur. Elle est devenue suffisante, elle se repose sur ses soi-disant lauriers. Et qui n'avance pas recule avec le Seigneur. Paul va du coup dire, dans la même épître, aux Corinthiens, chapitre 4, verset 8, il va dire, déjà vous êtes riches, rassasiés. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et Paul dira, mais puissiez-vous régner, afin que nous aussi, nous régnions avec lui, effectivement, nous régnions spirituellement dans les cieux avec Christ, parce que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus. C'est vrai, mais nous régnerons véritablement, nous rentrerons dans notre règne, dans notre héritage, quand nous serons auprès du Seigneur. Mais sur la terre, nous dépendons du Seigneur. Je dirais que nous sommes des, bien que fils, et c'est vrai que nous sommes des fils et des filles de Dieu, mais dans notre attitude, nous sommes aussi des mendiants de Dieu. Parenthèse, la prière, c'est quoi ? La prière ? C'est reconnaître que j'ai besoin de Dieu. Si je ne prie pas, ça veut dire que je n'ai pas besoin de Dieu, je peux me débrouiller moi-même. C'est ce que font les gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils pensent qu'ils peuvent, certains se disent heureux et pourtant ils sont bien malheureux, selon Dieu, mais ils pensent qu'ils peuvent se débrouiller eux-mêmes, qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Et ce qui va faire la distinction du chrétien, c'est sa conscience de sa misère et de sa dépendance à Dieu. Et ça, tout au long de sa vie, pas seulement au début de sa marche chrétienne. Prier, c'est reconnaître que je dépends de Dieu, que j'ai besoin de Dieu, je suis comme un mendiant de Dieu. Bien sûr, Dieu m'aime et me considère comme un fils. Et Dieu veut me donner, mais il dit « Demandez, vous recevrez ». Mais si vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas, ben oui, parce que parfois on pense dire qu'on n'a pas besoin, qu'on est riche en nous-mêmes, alors on ne demande pas, on ne demande plus. Jésus dira à ses disciples, il dira « Mes enfants, Marc 10, 24, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans leur richesse ». Sous-entendu qu'il s'y repose, d'entrer dans le royaume de Dieu. Effectivement, un jeune homme qui s'approchait de Jésus et qui voulait hériter de la vie éternelle. Et Jésus a dit, il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel et suis-moi. Et il a dit, parce qu'il avait de grandes richesses, il a été tout triste, et il a repris son chemin, il n'a pas suivi Jésus. Et Jésus va dire, mais qu'il est difficile. Et il dit bien, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans leurs richesses, pas seulement matérielles, mais on peut se confier dans ses richesses spirituelles, morales. Et si on se croit riche spirituellement, moralement, sans Dieu, ben on est pauvre finalement. Et on ne peut pas rentrer dans les promesses de Dieu, parce qu'on n'a plus soif, on n'a plus ce sentiment de besoin. Vous savez ce que l'on dit aux personnes âgées, on dit, il faut, notamment l'été, il faut boire. Beaucoup, même quand vous n'avez pas soif. Les enfants disent souvent, ils ont soif, ils demandent. Et parfois, on a l'impression qu'ils demandent de trop, mais ils ressentent le besoin de la soif. Et il peut arriver à un moment donné, physiquement, au niveau de notre âge, où on ne ressent plus le besoin de la soif. Et alors, on va dire, il faut boire, parce que vous en avez besoin, même si vous n'en ressentez pas le besoin. Et c'est pareil dans la vie chrétienne. Il faut boire à Dieu, il faut venir à la source. Même si on n'en ressent pas le besoin, c'est un mensonge. Parce qu'on a besoin du Seigneur. Et moins on pense qu'on en a besoin, c'est là que plus on en a besoin. Jésus dira dans Matthieu, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Heureux les pauvres en esprit, Dieu ne dit pas « Heureux ceux qui sont simples d'esprit ». Mais heureux ceux qui sont pauvres en esprit et qui le restent toute leur vie. Et tant qu'ils restent pauvres en esprit, alors le royaume des cieux, il est à eux. Dans les béatitudes, il y a beaucoup de promesses qui seront, mais pour le futur, quand on sera auprès du Seigneur. Mais là, il y a cette béatitude, elle est pour maintenant. Ceux qui ont toujours ce cœur de pauvreté spirituelle, qui réalisent leur pauvreté spirituelle, et donc ressentant leur pauvreté, ils n'ont pas honte de demander. Alors Dieu va les combler des richesses, des cieux. Le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la joie, c'est la justice par le Saint-Esprit, c'est la vie de l'Esprit, c'est les dons spirituels, c'est un service enrichi, une vie épanouie et bénie. Le royaume des cieux, il est seulement pour ceux qui ont un cœur d'enfant et qui le gardent tout au long de leur marche. Et Jésus, combien de fois va prendre les enfants en exemple? Dans Luc 10, 21, Jésus va dire à un moment donné, « Je te loue, en parlant à son père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu l'as révélé aux enfants. Oui, je te loue de ce que tu l'as voulu. » Ainsi, effectivement, ceux qui sont sages et intelligents, ceux qui se croient sages et intelligents, qui se croient arrivés, ils sont fermés finalement. Les choses du royaume de Dieu leur sont fermées, parce qu'ils ont leur propre suffisance. C'est un peu l'exemple, vous savez, l'exemple du pharisien et du publicain qui vont au temple pour prier. Il y en a un qui est plein de lui-même, plein de sa suffisance, de sa propre justice, c'est l'exemple du propre juste. Et l'autre, il sait qu'il est pécheur, que c'est un voleur, il le sait très bien. Et puis s'il ne le sait pas, il y a l'autre qui lui rappelle. Mais il est dit que des deux qui sont venus au temple pour prier, pourtant ils venaient pour prier, il y en a un qui est reparti justifié devant Dieu. Il a reçu ce dont il avait besoin. L'autre, il est reparti avec sa propre justice. Il n'a rien reçu de Dieu parce qu'il était plein. Un vase qui est plein, on ne peut pas le remplir plus. Et si nous présentons des vases pleins à Dieu, on repart à vide. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants, ne les en empêchez pas, parce que les disciples les empêchaient. Ils pensaient que les choses de Dieu, les choses du royaume de Dieu, c'était pour les adultes, pour les grands, pour ceux qui savaient, mais Jésus dit, mais non, au contraire, laissez-les venir à moi, ne les en empêchez pas. Car le royaume des cieux, le royaume de Dieu, il est pour ceux qui leur ressemblent. Ça veut dire que pour appréhender les choses du royaume de Dieu, il nous faut garder un cœur d'enfant, un cœur d'émerveillement, toujours prêt à recevoir de notre Père les grâces, les bontés qu'il veut nous donner, toujours prêt à apprendre, les enfants demandent. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi tu fais ça? Parce qu'ils ont soif. Il y a des symptômes de maladie dans certains domaines. On a des publicités actuellement par rapport au risque d'accident vasculaire. On entend ça, voilà, des certains risques. Vous avez une partie de la bouche, voilà, qui commence à se paralyser, un côté, un membre qui commence à se paralyser, la parole qui est difficile, etc. Ils disent à ce moment-là, vous faites le 15 de SAMU, parce que ce sont des symptômes de gravité, mais le manque de soif est un symptôme de gravité, de danger spirituel. Le disciple de Jésus, à la différence justement des autres disciples, le disciple de Jésus, on l'a vu, la première des choses, c'est qu'il réalise son besoin et son désir d'apprendre, toujours. Et tant qu'il a ce désir-là et il ressent ce besoin, il est disciple. Après, il n'est plus disciple. Le deuxième point, le disciple de Jésus, à la différence peut-être des autres disciplines dans le monde, c'est que le disciple de Jésus, il aime son maître. Et ça, ça fait une grosse différence. Le disciple, il aime son maître. Et c'est pour ça qu'il veut le suivre et qu'il veut lui être agréable. C'est l'exemple de l'esclave affranchi qui veut rester toute sa vie sous la coupe de son maître parce qu'il l'aime. Exode 21, 5, 6, quand il est dit qu'un esclave, eh bien, et après le temps qu'il a fait, les 7 ans, il peut repartir libre. Mais si l'esclave dit « j'aime mon maître », c'est extraordinaire déjà sous l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance nous parle aussi déjà des choses de la Nouvelle Alliance, mais de manière un peu cachée, un peu dissimulée. Mais si l'esclave dit « j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte et du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Parce qu'il aime son maître, c'est pour ça qu'il veut rester à son service. Et ça doit être la condition du chrétien, du disciple du Seigneur. Ce n'est pas parce qu'il est obligé, parce qu'on lui dit, mais parce qu'il a appris à connaître que Dieu était bon. Alors il veut le suivre. Et Dieu n'est pas bon simplement au début de notre marche chrétienne. Est-ce que Dieu n'est plus bon après? Est-ce qu'il a changé? Est-ce que ce n'est pas nous qui nous sommes endurcis? Notre cœur qui était un cœur de chair n'est-il pas redevenu un cœur de pierre vis-à-vis de Dieu? Vis-à-vis de ces manifestations d'amour, de ces manifestations de bonté à notre égard? De telle sorte que nous ne l'aimons plus vraiment comme nous l'aimions avant? Le troisième point, c'est que le disciple de Jésus-Christ, il est appelé à faire d'autres disciples. Quelle est la grande mission de l'Église? Allez. Voilà. Allez, c'est ça. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est vrai qu'on dit la grande mission de l'Église, c'est d'annoncer l'Évangile. C'est vrai. Mais en vue, pas seulement d'annoncer, mais en vue qu'ils deviennent des disciples eux-mêmes. Pas seulement des gens qui entendent, des gens qui donnent leur cœur à Dieu ou à Jésus, sur une émotion, mais qui s'engagent dans un processus de discipulat. Nous ne sommes pas appelés, une précision, à faire de ceux que le Seigneur ajoute à l'Église nos propres disciples. À nous, mais de Christ seul. On n'est pas non plus appelé à faire de ceux que le Seigneur ajoute à l'Église des disciples de l'Église, mais des disciples dans l'Église. Pas des disciples d'une dénomination ou d'un homme, mais des disciples de Christ. En fait, d'en faire des condisciples, c'est-à-dire des disciples avec nous, du maître, parce que c'est, et afin que nous puissions ensemble servir le Seigneur. Parce que si c'est pour en faire des disciples de nous, ou de notre église, ou de notre mouvement, ça s'appelle une secte. Et à ce moment-là, ces dirigeants sont des gourous. Mais ce n'est pas comme ça dans l'église du Seigneur. Et ce n'est pas comme ça selon la parole de Dieu. C'est pas dans cet esprit, et c'est dans cet esprit que Jésus va prononcer ses paroles par rapport aux pharisiens, aux scribes. Dans Matthieu 23, de 5 à 12, il dira « Ils font toute leur action pour être vus des hommes. Ainsi, bon, ils ont une apparence particulière, etc. Ils aiment à être salués dans les places publiques, à être appelés rabbis, c'est-à-dire à être appelés maîtres. » Mais il dit « Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbis, ne vous faites pas appeler maître. Car un seul est votre maître. Un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Le service qu'on accomplit dans l'Église ne fait pas de nous des gens supérieurs qui changent de statut. On est tous disciples du Seigneur. Et le but de l'enseignement, de tout ce qui est fait, c'est de contribuer à ce que nous devenions meilleurs dans notre service. Et qu'ensemble nous soyons efficaces en tant qu'église disciple du Seigneur. Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est maître et vous êtes tous frères. Et sœurs, bien sûr. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. C'est bien clair, hein ? Et c'est ce à quoi Paul travaillera tout au long de son ministère. Dans Colossiens 1:28, il dit, en parlant de Jésus, « C'est lui que nous annonçons. » exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment à moi. Paul travaillait de toutes ses forces, avec l'aide de Dieu, à présenter tout homme, toute femme, parfait en Christ. Il ne cherchait pas à en faire des disciples de lui, à en faire des pauliens, mais à en faire de véritables chrétiens, de véritables disciples. Et d'ailleurs, il reprendra les Corinthiens, encore les Corinthiens, pour leur esprit de parti pris, qui eux se recommandaient de tel ou de tel ministère, méprisant les autres ou n'en faisant aucun cas. Paul dira, « Mes frères, j'ai appris à votre sujet qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollos. Et moi, de Céphas. » Et d'autres plus spirituels disent, « Eh bien, moi, je suis de Christ. Je ne suis d'aucune chapelle, je suis au-dessus des autres. » Et Paul va rajouter que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes. Car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, tous les ministères dons sont à vous. Vous n'avez pas à dire moi je suis d'un tel, moi je suis d'un tel. Tout est à vous, tout est à nous. Parce que les dons que Dieu nous donne, ils sont faits pour être exercés au milieu de l'Église, pour le salut des perdus, mais ils sont, c'est des dons que Dieu donne afin que chacun puisse en bénéficier. Donc tout est à vous. On n'a pas à se recommander. Ah oui, mais moi, j'aime l'évangéliste. Alléluia, merci Seigneur pour l'évangéliste. Alléluia. Mais merci Seigneur aussi pour le pasteur. Merci pour le docteur, merci pour le prophète. Merci pour l'apôtre. Merci pour celui ou celle qui fait l'école du dimanche. Merci pour celui ou celle qui fait le ménage ou l'entretien des locaux. Tout est à vous. Parce que si les locaux n'étaient pas propres, il y avait plein de bonbons partout sur vos chaises, il y avait plein de chocolat, etc. Ça poserait un problème. Hein ? Ça poserait un gros problème. Hein ? On ne serait pas très attentif, il y avait toutes sortes d'odeurs comme ça. On ne serait pas très attentif au chant, on ne serait pas très attentif à la parole de Dieu. Donc ceux qui font le service, quelque part, ils le font pour le Seigneur, mais c'est pour le Seigneur et c'est aussi pour nous. C'est un don, nous en bénéficions. Comment se reconnaît le disciple de Christ ? Le disciple de Christ, il se reconnaît à sa ressemblance à son maître. Luc 6:40, Jésus dit « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Donc le disciple, il se reconnaît à son maître, à sa ressemblance à son maître. C'est pas parce qu'il dit « moi je suis disciple du Seigneur ». Ou je vais aux études bibliques qui fait de lui un disciple. Nullement. Mais c'est à sa ressemblance au Seigneur. Jésus dira, Jean 15, 8, « si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Si vous portez beaucoup de fruits. Bien sûr, ça nous parle du fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est le caractère de Jésus. Et si nous manifestons le caractère de Jésus, pas seulement quand nous sommes entre ces quatre murs, mais dans notre vie, de tous les jours, alors le Seigneur est glorifié, et alors, véritablement, nous sommes disciples de Jésus. Autrement, c'est des mots, c'est... Mais ce n'est pas la réalité. Jean 13, 35, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, ça fait partie du fruit de l'Esprit. » Comment est-ce que je peux dire que je suis le Seigneur, j'aime le Seigneur, si je dis « Ah non, lui, je ne vais pas lui parler. À lui, je ne l'aime pas. Ah puis lui, il ne m'a pas parlé, il ne m'a pas regardé, je ne lui dis plus bonjour. » Comment est-ce que je peux dire que je suis disciple du Seigneur? Ou alors, comment est-ce que je peux dire que je suis disciple du Seigneur? Moi, je viens pour écouter la parole. Mais la communion fraternelle, c'est pas possible. Bien sûr, on vient pour écouter la parole de Dieu. On vient pour écouter les chants, et pas seulement pour les écouter, mais pour chanter. On vient pour louer le Seigneur. Mais on vient aussi, parce qu'à ce moment-là, on reste chez nous. Maintenant, vous avez des programmes sur Internet, en direct. Mais ce qui fait la richesse de notre rassemblement, c'est que nous sommes ensemble. Et c'est là que la bénédiction de Dieu vient. Là. C'est quand le peuple de Dieu est rassemblé en son nom, dans un bon état d'esprit, voulant louer le Seigneur, voulant l'honorer, le glorifier. Alors la bénédiction de Dieu vient sur l'Église et sur nos vies. Comme il ne viendra jamais quand nous sommes seuls. Et particulièrement quand nous pouvons venir et que nous ne le voulons pas. Il y aura une bénédiction pour celui qui est persécuté dans tel ou tel pays, qui ne peut pas se joindre à l'Église. Pour celui qui est malade, véritablement malade, à l'hôpital, ou chez lui, il ne peut pas se déplacer pendant un certain temps. Alors il y aura une bénédiction de Dieu. Mais pour celui qui peut et qui ne veut pas, non, il se prive de la bénédiction de Dieu. C'est donc au fruit que se reconnaît le disciple de Jésus. Et c'est ce qui paraîtra au tribunal de Christ quand nous comparaîtrons devant le Seigneur. Comment devient-on disciple de Christ? La première étape, c'est le principe de l'obéissance. Et c'est l'exemple de Jésus. Dans Philippiens 2,8, il dit qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. Mais il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Jésus, en tant que Dieu fait homme, a suivi ce chemin d'obéissance de la croix pour que nous soyons sauvés. C'était le seul moyen pour que nous soyons sauvés. Et Jésus a accepté de se rendre obéissant au Père. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, selon ce que l'on offre selon la loi. Voici, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. Et Jésus a été obéissant dans les moindres détails, nous montrant le chemin. Mais finalement, qu'est-ce qui nous caractérisait avant de connaître le Seigneur? L'une des caractéristiques, mais dedans on peut mettre beaucoup de choses, c'est notre propension à désobéir, à dire non. L'un des premiers mots que les enfants apprennent, ça veut dire, c'est non. C'est non. Et puis les grands enfants que nous sommes, on sait aussi dire non, non, non. Et bien sûr qu'il faut dire non, il y a certaines choses auxquelles il faut dire non, non au péché, non au mal, évidemment. Mais ce qui nous caractérisait, c'était notre aptitude naturelle à désobéir, à dire non, tout particulièrement à Dieu et à sa volonté. C'était ça qui nous caractérisait. Paul le dira aux Éphésiens, il dira que nous étions des fils de la rébellion. Il ajoute, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Ah, on n'était pas contredits, parce qu'on était d'accord avec nous-mêmes. Notre chair disait ça. Nos pensées disaient ça, donc on désobéissait à personne, mais on désobéissait à Dieu. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Le plus calme d'entre nous était un enfant de colère comme les autres, de colère vis-à-vis de Dieu et méritant la colère de Dieu à cause de son attitude, de ses pensées et de ses actions. Mais ce qui va caractériser, ce qui va nous caractériser aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu, c'est notre propension, c'est notre capacité à obéir à Dieu, à nous plier à sa volonté. C'est ça qui doit... Il y a une différence. Avant, nous ne voulions pas, nous étions incapables d'obéir à Dieu, de plaire à Dieu. Nous ne le voulions pas. Mais le véritable chrétien et disciple du Seigneur, lui, son désir, il a reçu la capacité d'obéir et le désir d'obéir à Dieu, de lui plaire, parce qu'il aime son Seigneur. On a chanté un chant et les paroles disaient tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. La vraie liberté, non pas de faire n'importe quoi, mais de suivre le Seigneur, de lui obéir. Et le chant rajoute, je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Après, il y a cette décision, le Seigneur nous a délivrés. Mais est-ce que nous restons là, ça y est, je suis riche, je suis délivré, c'est fini? Ou est-ce qu'au contraire, étant délivré, affranchi par ce Dieu d'amour, je décide de le suivre, je veux le suivre, parce que je l'aime. Chaque jour, je veux marcher dans ses pas, je ne veux plus m'arrêter à un moment donné. Ce qui nous caractérise, c'est notre obéissance et notre désir de suivre Dieu et sa volonté. Job le dit, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche. Et Pierre dira dans 1 Pierre 2, 1, il parlera de ceux qui sont élus, en parlant de nous, les chrétiens, de ceux qui sont élus selon la préscience de Dieu par la sanctification de l'Esprit, la mise à part de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Dieu nous a rendus capables, par l'œuvre de Jésus, de devenir obéissants, nous qui étions désobéissants. Par Christ, tu es rendu capable d'obéir au Seigneur, si tu le veux. Le premier acte visible d'obéissance, se manifeste par notre décision de nous faire baptiser. On peut dire, oui, mais moi, je suis chrétien, je n'ai pas besoin de me faire baptiser. J'ai donné ma vie à Jésus. Mais Jésus l'a dit, simplement. Et on est appelé à obéir au Seigneur si on l'aime et on croit que c'est la vérité. Parce que Jésus a dit, celui qui croira, alléluia, et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et il ajoutera, quand il est dit dans Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, il ajoutera, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les baptisants. Ce qui veut dire que c'est le premier acte officiel. J'ai bien parlé, premier acte visible d'obéissance, la décision de se faire baptiser. Ça veut dire quand on est décidé de se faire baptiser. Il peut y avoir un processus entre la décision, le moment où on est converti, on a donné notre cœur à Jésus, et un temps entre le moment où on a notre cœur à Jésus et le moment où on passe par les eaux du baptême. Il peut être plus ou moins long en fonction de nous, des circonstances, de ce qu'on vit, mais à partir du moment où on est décidé et qu'on est en chemin, alors déjà là, c'est un acte d'obéissance que Dieu voit. L'obéissance doit accompagner le disciple tout au long de sa vie. Philippiens 2, 13, il est dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Selon son bon plaisir, parenthèse, c'est toujours... Il y a toujours cette bonté de Dieu qui anime. Ce que Dieu produit en nous, c'est toujours pour notre bien. C'est toujours la motivation de Dieu pour nous, c'est toujours la bonté, l'amour. C'est pourquoi faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Et ça, c'est en rapport avec la volonté de Dieu. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme ça que l'enfant de Dieu se distingue. Par son élan à obéir à Dieu, à se distinguer du monde qui prend un chemin complètement inverse. Pierre le dira comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Ça ne veut pas dire que les convoitises ne sont pas là, le désir de la chair, des pensées. Mais parce que nous connaissons le Seigneur et que nous voulons le suivre et nous lui être agréables, alors nous obéissons au Seigneur et nous disons non au mal. Et si nous sommes tombés, nous nous relevons, nous demandons pardon au Seigneur, pardon à qui nous devons demander pardon, et nous continuons notre chemin avec le Seigneur. Le chrétien ne doit pas pratiquer le péché. Le péché doit être un accident dans sa vie. Premier principe, on l'a vu, c'est le principe, comment devenir disciple de Christ, premier principe, c'est le principe d'obéissance. Deuxième principe, c'est le principe d'apprentissage de l'enseignement de Jésus. Une partie de cet apprentissage découle de notre relation avec le Seigneur. C'est le processus de la vie nouvelle en nous, par l'Esprit qui nous a été donné à la nouvelle naissance. L'Esprit de Christ en nous, c'est comme la plante qui pousse d'elle-même. Concernant l'amour, Paul le dira aux Thessaloniciens, « Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez appris vous-même de Dieu à vous aimer les uns les autres. » Effectivement, Paul le dira aux Éphésiens, « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » Donc il y a quelque chose qui se fait comme spontanément, qui devrait se faire en tous les cas. C'est à cela aussi, c'est l'un des signes qui nous montre que nous sommes véritablement nés de nouveau. C'est notre désir et notre capacité à aimer des personnes que nous ne connaissons ni d'Ève ni d'Adam. Mais parce que ce sont nos frères et sœurs, il y a un amour, il y a un partage. Vous allez en vacances, vous rencontrez dans une église nouvelle, vous discutez, et il y a comme un lien qui est là. Vous entendez que telle personne que vous connaissez très peu a tel problème de travail ou de santé et autres, et vous avez à cœur. Alors qu'avant, ça vous serait passé. Concernant les fausses doctrines, comment savoir si on est dans le vrai, dans le droit ou le bon chemin? Il n'y aura pas toujours quelqu'un qui sera là pour nous dire. Et Jean le dira dans sa première épître, « Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. » Il y aura toujours des gens qui seront là pour essayer de nous égarer au travers de ce qu'on peut entendre ou autre. Mais il dit, « Mais pour vous, en parlant des chrétiens, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, car son onction vous enseigne toute chose. Elle est véritable, elle n'est pas un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qui vous a été donné. » Cette onction, c'est le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit en nous, qui va nous conduire. Il n'est pas dit qu'il nous conduit dans toute la vérité. Il va nous montrer la voie. Si nous vivons en communion avec le Seigneur, nous sommes en marche avec lui. C'est l'une des riches et précieuses facettes du ministère du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Ésaïe 11:2, il nous a parlé d'esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance, de crainte de l'Éternel. Je me souviens, j'étais tout jeune converti, et là où je travaillais, il y avait un témoin de Jéhovah qui était lui très affermi. Et il essayait c'est le terme, de m'endoctriner. Et donc il n'arrêtait pas d'essayer de me faire, de me dire, de me convaincre des choses. Et moi je connaissais, j'étais vraiment tout jeune converti, j'avais peu d'éléments. Et puis je connaissais même pas d'église à ce moment-là. Et à chaque fois qu'on se séparait, le Seigneur me mettait une parole qui venait de lui et il restait bouche bée. Et puis on se quittait là. Jusqu'au moment, et puis ça n'a pas traîné, parce que Dieu sait toute chose aussi, c'est que c'est la période, quelques semaines après, même pour ne pas dire quelques jours après, j'ai rencontré une église, un prospectus, voilà, c'était à Montluçon, bref. Et puis du coup, à ce témoin de Jéhovah, je lui ai dit, bah, écoute, voilà, moi je vais dans telle église maintenant, et il y a le pasteur qui vient me voir, notamment pour l'enseignement par rapport au baptême, qui vient me voir chez moi lundi à telle heure. Donc si tu veux, au contraire, viens, comme ça on pourra confronter, jamais venu. Après, il a voulu revenir, je lui ai dit, c'est plus la peine maintenant. Mais vous voyez, déjà, je savais, je sentais, l'Esprit me montrait que ce n'était pas la vérité. Parce que nous ne nous laissons pas dans les voies de l'erreur. Et après, Dieu va mettre des personnes, une structure, pour nous conduire vraiment dans toute la vérité. À nous de la suivre après. Toute une autre partie de cet apprentissage va se faire par l'enseignement, par la connaissance de la parole de Dieu. Et là, c'est un processus, on rentre dans un processus de disciples, on rentre dans ce processus-là. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, qu'elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli propre à toute bonne œuvre, accompli disciple finalement, et propre à toute bonne œuvre, lui-même va pouvoir servir et va pouvoir faire d'autres disciples aussi. Et la parole de Dieu, c'est le meilleur instrument pour. Lisons la parole de Dieu, étudions la parole de Dieu. Personnellement, nous ne nous contentons pas de la lire, faisons des études personnelles. Hier, je visitais des prisonniers à la prison des mineurs, et puis un jeune qui a donné sa vie à Jésus d'ailleurs, et ce jeune, il s'appelle Quentin, vous pouvez prier pour lui. Et ce jeune, donc je sors une petite Bible, là, des Gédéon, Nouveau Testament, et il me dit « Ah, mais je connais ça !» Je lui dis « Ah bon, t'as vu ça ?» Il me dit « Oui, oui. » Il dit « J'ai un copain qui, il l'a toujours avec lui, il me l'a montré, etc. » Je lui dis « Ah bon ?» Il me dit « Oui, il est venu ici, il dit, c'est peut-être vous qui lui avez donné. » Je dis « Ah, d'accord. » Il me dit son nom, effectivement, je l'avais vu il y a quelque temps, ce jeune-là. Et il dit le témoignage qu'il rend par rapport à ce jeune, il l'a toujours avec lui dans sa poche. Un jeune qui était musulman, parenthèse. Hein. Il l'a toujours avec lui dans sa poche. Et il dit « Et quand il est énervé, quand il est prêt à, selon ses termes, péter un plomb, ou un câble, pardon, eh bien, il dit, il sort le petit livre et puis il le lit. » C'est extraordinaire, hein ? Vous voyez ? Toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile dans nos vies. Elle est utile. Ne la laissons pas dans notre poche ou sur notre table. Lisons-la, pratiquons-la, aimons-la. Recherchons Dieu au travers de sa parole. Paul le dira à Timothée, « Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise sa jeunesse. Aux Colossiens, que la parole de Christ demeure en vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres. » Et Pierre le dira, « Je prendrai le temps de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. » Paul aux Philippiens dira, « Mes frères, je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. » Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses. Pour vous, cela est salutaire. Et pour nous, c'est la même chose de repasser la parole de Dieu, de rechercher Dieu. « Oh, mais j'ai déjà lu l'évangile de Matthieu, je connais par cœur, c'est plus la peine. » Ah oui, mais t'as mangé du pain hier et puis t'en reprendras encore aujourd'hui. Hein. C'est pas un hasard si dans le début de l'Église naissante, dans Actes 2, 42, les disciples, il est dit qu'ils persévéraient dans quatre choses. Mais la première de ces choses, c'est l'enseignement des apôtres. L'enseignement de la parole de Dieu. Et que cet enseignement était le premier des quatre piliers cités sur lesquels la croissance spirituelle de l'Église reposait. La communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Mais le premier, c'est l'enseignement des apôtres. Tant de domaines où nous avons certainement besoin d'apprendre. Dans le domaine de l'amour, aujourd'hui, l'amour, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. La parole de Dieu a beaucoup à nous enseigner. Dans le domaine des relations, c'est un guide précieux. On n'a pas le temps de développer, mais peut-être déjà un ou deux points au sein de la famille. La Bible nous dit, par exemple, pour la jeune femme, il est dit « afin qu'elle apprenne comment aimer son mari et ses enfants ». Tite 2, 3, 4. Ce qui veut dire, on pourrait dire, mais quand on aime, c'est facile. Tout est facile. Si on aime, il suffit d'aimer. Eh oui, puis il suffit de divorcer après. Ce qui veut dire que ce n'est pas forcément si facile que ça, et si naturel que ça. Merci Seigneur pour ceux pour qui c'est facile tout au long de leur vie, merci Seigneur, mais ce n'est pas forcément une généralité. Ce qui veut dire que même dans le domaine de l'amour, on a besoin d'apprendre, et d'apprendre du Seigneur, et de prendre ces choses avec sérieux et considération. Dans Éphésiens 5, 22, quand il est dit « Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur ». Là, la Bible nous enseigne le principe de la soumission, mais c'est intéressant, comme au Seigneur, pas comme dans le monde. Mais comme au Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas des choses à apprendre là, pour nous ? Parce que comme au Seigneur, ça fait toute la différence. Ça nous parle d'un acte volontaire qui est consenti, qui est non imposé. Ça nous parle d'un acte d'amour vis-à-vis du mari, mais aussi vis-à-vis de Jésus. C'est un acte spirituel en compréhension à la relation de l'Église avec son Sauveur. Et c'est un acte qui se traduit dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'on n'a pas besoin de progresser dans ce domaine-là ? Dans la dimension de la soumission, il y a cette notion de soutien aussi. L'épouse est là pour soutenir son mari, comme une aide, Dieu dit, une aide semblable à lui. Pour le mari, est-ce qu'il n'y a pas besoin, et moi en premier, d'apprendre comment aimer mon épouse ? Et il est précisé à l'image, comme Jésus a aimé l'Église. Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et là, c'est tout un programme. C'est tout un programme. Est-ce que ce programme, il est juste au tout début de notre mariage, au tout début de notre conversion, ou est-ce que ce n'est pas toute notre vie où on a besoin d'apprendre ? Ce n'est pas forcément aimer comme mon père a aimé ma mère, ou comme mon grand-père a aimé ma grand-mère, mais comme Christ a aimé l'Église. De même qu'on peut être On peut se penser heureux et être malheureux. On peut penser aimer et finalement mal aimer. Et là, on a besoin d'apprendre du Seigneur. On a besoin d'apprendre, de dire « Seigneur, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin d'apprendre à aimer comme toi tu aimes. Enseigne-moi, Seigneur, aide-moi. » Il ajoute « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, pour la faire paraître devant lui, faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. » C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Il la nourrit, il la chérit, il en prend soin. Quel enseignement ! Quand il est dit également, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme un vase plus fragile. Honorez-la comme devant hériter de vous avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Pour l'épouse qui veut gagner son mari inconverti au Seigneur. 1 Pierre 3, 2, 1, 6. Il est dit, afin que le mari soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant leur manière de vivre chaste et respectueuse. Et ce qui traduit, il dit, il est parlé d'un esprit doux et paisible. C'est ça qui va gagner le mari inconverti. C'est son comportement sans parole, ce qui est aussi un défi pour les dames. C'est pas un hasard si la Bible le précise. Mais de la même manière, je crois que c'est un défi pour une femme de rentrer dans la soumission biblique. De la même manière, c'est un défi pour un homme de rentrer dans l'amour biblique. Que d'enseignements par rapport aux enfants également. Pour leurs parents, enfants, obéissez à vos parents. Les pères par rapport aux enfants, Éphésiens 6, verset 4, où il nous enseigne que les pères ne doivent pas blesser leurs enfants, mais ils doivent se consacrer à leur éducation. En cherchant à les élever vers le Seigneur selon ses principes et à les instruire aussi, pas seulement imposer, mais instruire, expliquer, prendre le temps d'expliquer pourquoi on fait telle chose, mais aussi prendre le temps d'expliquer par rapport à la parole de Dieu. Que de choses dans le cadre professionnel, on passe. Pour arriver à la conclusion pratiquement et de dire que finalement d'une manière générale, Paul le dira aux Thessaloniciens, au reste frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Finalement, c'est notre conduite de tous les jours qui fait de nous des disciples et qui doit faire de nous des disciples. Ce n'est pas le fait d'avoir une position ou d'être sur l'estrade qui fait de nous un disciple. Et finalement, on découvre que la véritable définition du serviteur de Dieu ou de la servante de Dieu, ce n'est pas la position qu'il a ou qu'elle a dans l'Église, mais c'est sa façon qu'il ou qu'elle va avoir de respecter les principes de Dieu, d'aimer son Seigneur et de les appliquer dans la vie de tous les jours. Ce principe de discipulat se fait aussi par l'exemple. Effectivement, on a besoin de modèles et on est appelé à être des exemples et des modèles parce qu'on apprend beaucoup en voyant les autres. Et chacun d'entre nous, nous sommes face à cette responsabilité. Les enfants voient leurs parents. Les nouveaux convertis nous voient vivre. Nos voisins nous voient vivre. Nos collègues de travail nous voient vivre. Et pour les amener dans ce également à être disciples de Jésus, ça va être pas seulement en leur parlant, en les enseignant, mais par notre comportement, notre façon d'être. En conclusion, le disciple, c'est le vrai sens du serviteur de Dieu, qui se place volontairement et de plein gré au service de son maître, qui cherche à lui plaire. C'est le désir le plus cher de Dieu pour nos vies ici-bas, pour ne pas dire que c'est notre première vocation que de rentrer dans ce disciple-là. On n'est pas disciple automatiquement, on le devient. Pour cela, il nous faut accepter de rentrer dans un processus de discipline. Ce qualificatif ne s'acquiert pas non plus par l'ancienneté. Ça fait 10 ans que je suis chrétien, donc maintenant j'ai le droit, maintenant je suis disciple. C'est pas ça, ça ne dépend pas de l'âge. On peut être un vieux chrétien et pour autant ne jamais avoir été un disciple de Christ. On peut être un jeune et être un disciple de Jésus. Gardons durant toute notre vie ce désir, cette soif de connaître plus Jésus, d'apprendre de lui, de le suivre sur le chemin de l'obéissance et de la ressemblance. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Merci de nous comprendre, de nous aider à comprendre, Seigneur, ce que tu veux nous faire comprendre au travers de ce message parfois dit maladroitement, mais que ta grâce et que ton esprit, Seigneur, puisse faire son œuvre au milieu de nous, afin que nous soyons changés, transformés, Seigneur, à ton image. Tu veux que nous te ressemblions et que nous te servions, Seigneur. Merci de faire cette œuvre de délivrance, Seigneur. Merci là où il n'y a plus la soif, de mettre la soif. Là où il y a la désobéissance, la rébellion, de mettre la soumission, Seigneur, à ta parole, Seigneur. Et l'obéissance à ta parole, à ta volonté. Merci de nous aider à aimer comme toi, tu as aimé, Seigneur. Louange à toi, Jésus. Amen.